ne partez pas, elles sont pas très longues. Hein. Elles sont nombreuses, mais pas très très longues. On va commencer par deux versets que nous trouvons à la fin de la Bible, 1 Pierre chapitre 2 et les versets 4 et 5, 1 Pierre chapitre 2, versets 4 et 5, qui dit ceci. « Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des sacrifices spirituels agréable à Dieu par Jésus-Christ. Amen. » Nous lisons aussi dans l'Épître aux Éphésiens au chapitre 5. Éphésiens, chapitre 5, le verset 25, 26 et 27. « Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. » Et s'est lui-même livré pour elle, afin de la sanctifier, après l'avoir purifiée par l'eau et la parole, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Amen. 1 Corinthiens, chapitre 3 et un seul verset, le verset 16. 1 Corinthiens 3, 16. « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous ? Amen. » Et pour en terminer, le premier livre des Rois, au chapitre 5, nous lirons simplement trois versets, les versets 15, 16 et 17. Salomon avait encore 70 000 hommes qui portaient les fardeaux et 80 000 qui taillaient les pierres dans la montagne, sans compter les chefs, au nombre de 3300, préposés par Salomon sur les travaux et chargés de surveiller les ouvriers. Le roi ordonna d'extraire de grandes et magnifiques pierres de taille pour les fondements de la maison. Amen. Nous trouvons le roi Salomon à un moment tellement solennel. Il démarre un chantier gigantesque, la construction du temple. Préalablement, il nous est dit plusieurs fois que Dieu lui avait donné la sagesse, l'intelligence et des connaissances multiples, aussi nombreuses que le sable de la mer, qu'il dépassait en sagesse tous les intellectuels, tous les grands cerveaux de l'Orient, tous les fils de l'Orient n'arrivaient pas à son niveau de sagesse. Donc les choses, elle commence bien parce que quand une initiative démarre avec la sagesse de Dieu, il n'est pas étonnant qu'avec un tel commencement, il y ait une telle fin. Parce qu'à la fin, lorsqu'il va inaugurer le temple, la Bible nous dit qu'à l'issue de sa prière inaugurale, la gloire de Dieu est descendue. Ah, moi je veux vivre ça, hein. La gloire de Dieu est descendue dans une telle intensité que on ne pouvait pas rester là, vous voyez. C'était trop, c'était extraordinaire, indescriptible. Quand ça commence avec la sagesse de Dieu, ça finit avec la gloire de Dieu. Et entre les deux, il y a à construire, il y a à construire, il y a à bâtir. Et ce que je voudrais remarquer ce soir pour nous, c'est une information que la Bible nous rapporte concernant un ordre que le roi a donné. Le roi ordonna que l'on extrait de grandes et magnifiques pierres de taille pour les fondements de la maison. Et j'ai réfléchi sur cet ordre qui apparemment pourrait sembler assez étrange. Je me suis dit, c'est pour les fondements. Ça va être caché. Ces pierres-là, elles vont constituer les fondations du temple. Pour quelle raison y avait-il nécessairement besoin qu'elle soit belle, puisque c'est caché? Il y a trois qualificatifs qui nous sont donnés sur ces grandes pierres. C'est que premièrement, comme je viens de le dire, elles devaient être grandes, la robustesse, elles devaient être belles, et je vous parlerai tout à l'heure de quelques critères d'esthétique au regard de Dieu. C'est quoi être beau? Qu'est-ce que Dieu trouve beau? On va citer quelques aspects de ce sujet. Et elle devait être de taille, donc pas à l'état brut, mais il, et puis vous avez vu le nombre de tailleurs de pierre, 80 000, deux fois au bagne. Ouais. 80 000 hommes étaient embauchés pour tailler, donc... On vous parlera tout à l'heure, on parlera ensemble sur ce troisième aspect descriptif de ces pierres grandes, magnifiques et taillées. Et quand je lis le Nouveau Testament, je découvre que je suis une de ces pierres et qu'ensemble nous sommes aussi ces pierres. Non pas minérale, mais vivante, l'apôtre Pierre le dit, nous l'avons lu tout à l'heure, et que, étant nous-mêmes des pierres vivantes, comme Christ est la pierre vivante principale, nous devons nous édifier les uns les autres. Alléluia. Et nous devons former un édifice spirituel, à la gloire de Dieu, afin que comme sa gloire est descendue dans le temple de Salomon, elle descende aussi parmi nous. Est-ce que ce programme vous intéresse? Ça tombe bien parce que c'est ce que Dieu veut. Dieu le veut. Sa volonté est clairement ancrée dans les saintes écritures. Dieu le veut. Alléluia. Et j'aimerais qu'on puisse ensemble, considérer donc ces trois qualités qui nous sont rapportées. Elle devait être grande, donc robuste. Dieu veut faire de toi une pierre robuste, forte, solide. En parlant du fondement de Dieu, ma Bible me dit... Le solide fondement de Dieu demeure. Et dans ce verbe demeurer, je comprends une qualité de longévité, de longueur de temps, de durée. C'est pas des parpaings de vin qu'on achète à Brico Dépôt, mais c'est des pierres qui vont défier les siècles. Et non seulement le temps, mais qui vont défier toutes sortes de facteurs qui vont les mettre à l'épreuve. Tu es une pierre dans l'édifice du Seigneur. Cette pierre que tu es va être mise à l'épreuve. Elle va devoir défier avec une solidité suffisante plusieurs facteurs qui voudraient nuire à son intégrité. Il y a par exemple des chocs. Ça peut arriver, même dans la marche d'un enfant de Dieu, qu'il y ait des chocs. Mais il faut que la pierre que tu es puisse résister au choc. Anti-choc. Amen. Il faut que tu résistes au choc. Vous voyez, nous, on a acheté c'est très, très beau. Hein, vous savez, on fait des colonnes pour encadrer un portillon. Donc, j'ai vu un modèle de ces confections. Alors je me suis dit, ça, c'est beau. Et j'ai mis ça, vous voyez. On empile tout ça, et puis il y a du ferraillage, et on coule du béton, et ça vous fait les deux poteaux du portillon, vous voyez. Mais je me suis aperçu que, à part l'esthétique, la solidité laisse à désirer, parce que au bout de quelques semaines, il y a des angles qui se sont fissurés, un choc physique ou quelquefois thermique, le chaud, le froid, que sais-je. Il y a des fissures à certains points, vous voyez. Nous, on a fait, par la grâce de Dieu, une construction à Nîmes d'un bâtiment qui fait 55 mètres de long sur 30 mètres de large, constitué de deux corps, un jusqu'à 5 mètres de haut, grosso modo, et l'autre beaucoup plus haut. Et pour entrer dans cette construction, il a fallu écouter et respecter des consignes du bureau d'études béton, de l'architecte. Et heureusement qu'on avait un chrétien qui était dans cette profession conducteur des travaux, n'est-ce pas ? Et il a fallu, à certains points de l'édifice, des points délicats, vous voyez, des points de fragilité, de faiblesse, il a fallu appliquer des mesures. Il a fallu, par exemple, faire des joints de dilatation. Sinon, ça se serait fissuré n'importe comment, vous voyez. Il y a des règles de construction pour que l'édifice soit solide. Tu vas subir des chocs émotionnels, des chocs événementiels, des événements familiaux que tu n'aurais jamais voulu affronter, eh bien, se produiront. C'est comme cela, dans la marche de l'enfant de Dieu, il y a des chocs, mais tu es une pierre grande à laquelle ton Dieu confère des capacités de résistance. Et j'aimerais dire à quelqu'un ce soir, tu vas résister. Dans le nom de Jésus, ta foi va résister. Il y a des chocs, il y a aussi des pressions, il y a des mouvements du sous-sol, du terrain, il y a toutes sortes de pressions, il y a des forces qui se combattent, et toutes ces pierres que nous constituons, elles doivent résister et non pas se fissurer. Et puis, il y a aussi des facteurs alors beaucoup moins spectaculaires, l'érosion par exemple, l'érosion. Vous savez, cette action silencieuse, constante, négligeable pour quelqu'un qui manque de responsabilité et qui va effriter la consistance de ta vie spirituelle. Eh bien, moi, ce soir, je veux dire non à l'érosion. Amen. Vous savez, cette action qui va travailler à émousser l'acuité de ma foi, l'acuité de mes prières, comme un instrument tranchant, mais qui ne tranche plus, parce que la lame a besoin d'être aiguisée à nouveau, afin que le fil retrouve sa finesse et donc aussi son efficacité. Une foi émoussée, une espérance attristée, une joie un peu atténué, un enthousiasme affaibli, que sais-je. Eh bien, chaque fois que l'Église se rassemble dans une soirée de prière, Dieu veut aiguiser, Dieu veut affûter, alléluia, le tranchant de ta foi. Et ainsi, dans les dons spirituels, dans les prières, dans les témoignages que tu apporteras, tu vas être un instrument efficace entre les mains du Saint-Esprit. Alléluia! Gloire à Dieu! La robustesse. Maintenant, la Bible nous dit que ces pierres étaient magnifiques. Elles étaient magnifiques. La beauté. La beauté. Alors je vous parlais de quelques critères d'esthétique au regard du Seigneur, et effectivement, dans l'un des quatre textes que nous avons lus tout à l'heure, dans Éphésiens 5, j'ai relevé ce verset 27, la volonté, la mission, l'objectif de celui qui est le chef de l'Église, c'est qu'un jour, il fera paraître cette Église, c'est sûr. Avec tous les critères de beauté qui lui correspondent. Il fera paraître devant lui cette Église, premièrement, glorieuse, deuxièmement, sans tache, troisièmement, sans rides, et enfin, sainte et irrépréhensible. Alors, si vous permettez, en 2-3 minutes, que nous réfléchissions sur ces quatre critères de beauté au regard du Seigneur. Et le premier critère, glorieuse. Glorieuse. L'opposé, c'est l'opposé de la gloire, c'est la honte. Il y a des choses honteuses, il y a des choses glorieuses. Lesquelles voulons-nous ? Amen. Bien sûr. Nous sommes destinés au glorieux. Et ce n'est pas une chose qu'on espère dans un avenir plus ou moins lointain, mais nous sommes entrés dans cette réalité. Dès l'instant où tu es sorti des eaux du baptême, après avoir confessé le nom de ton Sauveur, tu es entré dans un cheminement qui te conduit vers le glorieux. Et dans un cheminement où l'Esprit de Dieu et la parole de Dieu, dimanche après dimanche, semaine après semaine et tout au long de ta marche chrétienne, va te débarrasser de ce qui est honteux pour amener le glorieux à établir pleinement son expression dans ta vie. Nous sommes appelés à aimer le glorieux et à avoir une répulsion pour le honteux, ce qui est honteux. La Bible nous parle de cette société plongée dans le péché et donc de ces comportements, de ces hommes, de ces femmes qui font en secret des choses honteuses. Parce que ce qui est honteux se pratique généralement d'une manière secrète, quoique nous sommes arrivés à un état de dépravation où l'humanité se glorifie de sa honte, de choses impures, la corruption, le mensonge, des attitudes, des pensées, des mobiles intérieurs horribles, horribles. Eh bien, il en est différemment des enfants de Dieu qui sont ces pierres. Hein, ces pierres vivantes qui ont été taillées de la grande montagne, on peut dire que cette grande montagne originelle, c'est Dieu. Donc, chaque pierre est composée exactement de la même manière que la montagne, c'est la même nature. Nous avons été taillés, nous sommes ces pierres, et nous sommes entrés dans une trajectoire ascendante qui nous porte vers le glorieux. Paul dit aux Corinthiens que nous sommes transformés de gloire en gloire par le Seigneur, le Saint-Esprit. Alléluia. Le Saint-Esprit a dans l'éventail de son glorieux ministère celui de transformer palier par palier, progrès après progrès, chaque enfant de Dieu vers le glorieux. Amen. Vous et moi, nous devrions être plus marqués du glorieux qu'hier et moins que demain. Demain, je veux encore progresser dans le glorieux. Tout ce qui est vrai, tout ce qui est digne d'approbation, tout ce qui mérite la louange, tout ce qui est positif et qui suscite dans le cœur de Dieu une satisfaction, une joie, une approbation, toutes ces choses doivent faire l'objet de nos pensées. Amen. Alors je sais très bien que vous et moi, nous avons exactement le même combat, c'est que ce n'est pas toujours facile. Vous savez, quelquefois, une mauvaise pensée ne nous demande pas l'autorisation d'entrer en nous. Elle y entre. Et si nous fermons la porte, ben elle peut passer par le basistas, ou par une fenêtre, que sais-je. Dans le domaine des pensées, mais on a vite fait de se surprendre. Mais qu'est-ce que tu dis, toi? Qu'est-ce que tu penses? Brusquement. Mais c'est honteux. Alors on rejette. Et c'est ainsi que le parcours du chrétien doit évoluer vers ce qui est glorieux, vers ce qui réjouit et honore le Seigneur, vers ce qui édifie le frère, la sœur, ce qui contribue à la force collective de l'Église. Ça, c'est glorieux. Alléluia. La gloire est un des critères d'esthétique de l'Église. Elle est glorieuse. Oh, le Seigneur a pris sur lui notre honte. L'opprobre, il s'en est chargé. Et il nous réserve la gloire. Il nous destine à la gloire. Alléluia. Glorieuse, deuxième critère, sans tâche. Sans tâche. Alors, les tâches nous parlent des souillures que nous découvrons avec surprise suite à une éclaboussure. Vous voyez, vous êtes en train de marcher, il pleut, hein. Il y a une flaque boueuse. Et il y en a un sur une Kawasaki 700 et quelques, là. Il passe dans la flaque et ça vous éclabousse. Et votre jean blanc que vous venez d'acheter se retrouve avec des taches. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué. J'espère que ça n'arrive pas qu'à moi. Il suffit qu'on mette un vêtement propre pour le tacher. Pas possible. On aurait un bleu de travail, non, il n'y a pas de problème. Un vieux jean, pas de problème. Mais on met quelque chose de beau, on se tâche, pas possible. Et puis je ne sais pas si vous avez remarqué, plus le vêtement est clair et plus la tâche est visible. Vous aussi, c'est pareil. Vous mettez un vêtement gris, une tache grise sur du vêtement gris, vous mettez la cravate dessus et ça choque moins. Plus le vêtement est blanc et plus ça fait ressortir la tache. Au plan spirituel, mes bien-aimés, il en est de même. Si j'ai ma conscience dans le gris, elle va avoir du mal à réagir. Il faut vraiment qu'elle se concentre en disant « Ah, il y a une tache là ». Mais si ma conscience est lavée, elle est purifiée, elle est blanche, eh bien la moindre tâche va faire réagir ma conscience et ma conscience activée va me conduire au pied du Seigneur. Le Seigneur, non, je veux pas. Moi, vous voyez, à toute comparaison, bien sûr, regardez, il n'y a pas très longtemps, je suis rentré avec un pantalon clair taché. Et j'ai dit à ma femme, vite, 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 j'espère que tu vas le récupérer, hein, le vêtement. Et t'en fais pas, elle a pris un produit, et elle a récupéré la tache. Ouh, ça fait du bien. Mais quand c'est la conscience qui doit supporter le trouble suscité par la présence d'une tache, mais ne reste pas avec ta tache. Viens, est bien plus puissant que tous les produits chimiques dont on dispose. Le précieux sang de Christ a le pouvoir d'enlever les taches. Amen. Et l'aboutissement que Christ réserve à son Église, donc à toutes les pierres vivantes qui la constituent, c'est une Église sans tache. Amen. Gloire à Dieu. Une Église sans tache. Je me souviens de plusieurs circonstances, parce que dans la marche chrétienne, malheureusement, ça n'est pas rare, hein, où brusquement j'ai eu conscience que involontairement, une parole de ma bouche avait perturbé un frère ou une sœur. Mais c'était vraiment pas intentionnel, mais j'ai vu une expression du visage, changement de comportement, moins de liberté et de spontanéité. Eh bien, j'ai pas pu rester comme ça. J'ai été voir, et j'ai parlé avec le frère ou la sœur en disant, mais vraiment, y a rien, quoi. Il faut enlever les taches. Hein. On n'est pas mieux quand on est sans taches. Non, sérieux, on n'est pas mieux. Vous êtes propre. Mais vous regardez tout le monde en face dans les yeux. Vous êtes paisible, vous vous sentez fort parce que vous êtes propre, vous êtes pur, vous êtes sans tache. On est bien quand on est sans tache. Eh bien, que le Seigneur vraiment travaille aussi à nous débarrasser de la présence vraiment très désagréable de ces taches éventuelles. Alléluia. Et puis, troisième trait d'esthétique aux yeux de Dieu, sans rides. Sans rides. Oh là là. Eh oui, il y en a qui se... Mais moi, ça m'arrive aussi. Hein. C'est chez moi, je fais ça. Donc, ne le dites pas à Pâques à Corse. Hein. Ça m'arrive, je me mets devant le miroir et je fais ça. Et je me dis, là, tu as 10 ans de moi. Les rides. En fait, les rides me parle du mauvais vieillissement. Du mauvais vieillissement. Moi, j'aimerais vieillir bien. Je parle au plan spirituel. Et si notre peau se ridera, effectivement et inévitablement, je prie pour que notre foi n'ait pas de rides. Amen. Je prie pour que nous soyons tellement rajeuni et rafraîchi dans notre marche avec le Seigneur, eh bien, que notre foi sera aussi entière, aussi fraîche, aussi absolue, alléluia, aussi inconditionnelle que dans les premiers pas de notre vie chrétienne. Est-ce que ta foi aurait quelques rides? Eh bien, le Seigneur a le pouvoir de les enlever. Amen. Il était vieux, ce prophète. Il était vieux, en plus malade. Il allait bientôt mourir. Et le jeune roi Joas vient avec une formule nostalgique et défaitiste. Eh bien, Élisée, ce vieux prophète, va démontrer que si les rides avaient réussi à couvrir sa peau, sa foi, elle, était sans aucune ride. Quelle parole! Arrête! Ça, c'est moi qui le rajoute, excusez-moi. Ouvre la fenêtre, prends un arc, mets une flèche, tire! Et il pose ses mains sur les mains de Joas qui décoche la flèche. C'est une flèche de délivrance de la part de l'Éternel. Oh, moi, j'aimerais avoir une foi comme ça. Amen? Une foi comme ça. Pas une foi fripée, mal vieillie, vous voyez. Et c'est possible dans ce que j'ai mentionné tout à l'heure, dans cette action quotidienne et permanente de rajeunissement intérieur. Alléluia. L'homme extérieur se détruit de jour en jour. Mais, oh, j'aime ce mais, l'homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Alléluia. Une église sans rides. Elle a de l'âge, mais elle n'a pas les désagréments de l'âge. Elle est sans rides. Alléluia. Et puis, je termine. Mais sainte et irrépréhensible. Sainte et irrépréhensible. Et j'ai envie, ça c'est ma compréhension, donc vous êtes en droit d'avoir une sensibilité différente. J'ai envie de dire sainte et irrépréhensible. Irrépréhensible parce que sainte. La sainteté exprime ce qu'elle est à l'intérieur d'elle et qu'elle soit irrépréhensible exprime tout ce que son entourage observe d'elle, irréprochable. Je ne pourrais pas être sans aucun reproche si intérieurement j'ai un problème de sainteté. C'est merveilleux la sainteté. C'est pas une notion moralisatrice comme ça. C'est merveilleux la sainteté. C'est un état de pureté tellement viscérale, presque oui, génétique, puisque nous sommes nés de nouveau. Donc dans nos nouveaux gènes, il y a la sainteté parce que notre Père, notre divin géniteur, est saint. Eh bien. Parce qu'il est saint, eh bien je suis saint. Gloire à Dieu. Ce n'est pas une règle des règles de morale, des préceptes. L'apôtre Paul, entre autres, dénonce sans ménagement ce système de préceptes. Ne touche pas, ne fais pas. Qui ont l'apparence, dit-il, d'être spirituels, mais qui en fait flattent l'orgueil. La vraie sainteté, elle fait de moi quelqu'un qui, en famille, au travail, à l'église et dans les rencontres fortuites du quotidien, dégage un témoignage irréprochable. Et ce n'est pas toujours facile. C'est pas vrai? Je me souviens, j'avais peut-être, je sais pas, 23, 24 ans, je travaillais dans une entreprise de textile, pour un Arménien, c'est normal. Et je me souviens de ce vendredi soir où mon chef était plus insupportable que d'habitude. Il nous restait une demi-heure avant la fin de la journée et il me met sur mon bureau plusieurs notes de choses qu'il fallait que je fasse en une demi-heure. Là aussi, ne le racontez pas aux autres, hein. Parce que j'ai honte. Quand j'ai vu ça, la colère m'a saisi. Avant même que j'aie le temps de penser, la colère est venue. Et j'ai été le voir. Et là, vraiment, vraiment, je n'ai pas été irréprochable. Et je lui ai dit ce que je pensais de sa gestion, etc., etc. D'ailleurs, ça l'a surpris. Ou bien il a fait semblant d'être surpris. Et puis je suis parti dans mon secteur, et là, l'agent divin qui travaille à notre sanctification a commencé à me travailler la conscience. Et plus les minutes s'égrenaient, et plus un sentiment de honte insoutenable remplissait mon cœur. Et j'ai bien vite compris qu'il ne fallait pas terminer la journée sans régler ça. Alors, sur le bout des orteils, je me suis dirigé vers le bureau de mon chef. Quand il m'a vu arriver, il s'est crispé un peu. Je lui ai dit, non, rassurez-vous. Et j'ai saisi l'occasion, parce que je ne l'avais pas eu encore, pour lui parler de ma foi. Et pour lui dire que parce que j'étais chrétien, mon comportement est absolument inacceptable et je venais lui faire mes excuses. C'est la première fois qu'il vivait une telle expérience. Mais moi, j'ai retrouvé ma joie. Donc, ce n'est pas facile. Quelquefois, l'émotion est si forte, si vive, que la bouche lâche des mots qu'on n'aurait jamais dû prononcer. Mais c'est un travail. C'est un travail. Que la sainteté de Dieu prenne de plus en plus place dans mon être, dans ton être, et ce faisant, dans mes relations et mes comportements en société, je tendrai vers cet état de beauté irréprochable. Irréprochable. Balak a soudoyé Balaam. Viens et maudis-moi ce peuple. Et Balaam vient et, au lieu de le maudire, il le bénit. Oh, Balak n'était pas content. Viens, viens, viens. Je vais te montrer le peuple d'Israël sous un autre angle et sous plusieurs angles. Et là, tu vas le maudire. Et chaque fois, quel que soit l'angle, Balaam ne trouvait rien, aucun facteur justifiant une parole de malédiction. Il bénissait, il bénissait. Eh bien, qu'en nous regardant sous toutes les coutures, on dise irréprochable, irréprochable. Et ce témoignage sera à la gloire du Seigneur. Amen. Je termine avec le troisième descriptif, les pierres taillées. Des pierres taillées, mais je vous laisse simplement, sous la forme d'un schéma, trois réflexions. La taille de ces pierres, elle devait être conforme sur le niveau, elles étaient mises de niveau, sur l'aplomb et sur l'équerrage. Elles étaient d'aplomb, elles étaient de niveau, elles étaient d'équerre. Et je vous livre juste ces réflexions à votre méditation personnelle. Il y a ces trois dimensions qui doivent nous caractériser. L'aplomb, c'est le vertical, notre relation avec Dieu. Amen. Notre relation dans la louange, l'adoration, la prière, dans la connaissance, l'intimité, l'amitié de l'Éternel et pour ceux qui le craignent. Amen. Il y a des termes très forts. Quand je lis que Dieu parlait à Moïse comme un homme parle à son ami, l'amitié de l'Éternel, ça c'est la précieuse orientation verticale. Et puis, d'aplomb, de niveau, ça c'est l'horizontal. Ça c'est mes relations. La communion avec Dieu, la communion avec mes frères et avec mes sœurs. C'était mis de niveau. Gloire à Dieu. Amen. Et puis, l'équerrage, eh bien, c'est l'équilibre entre les deux. C'est l'équilibre entre les deux. Et si, chez un chrétien, la verticalité prend des proportions hors équilibre, eh bien, ça va faire un mystique. Et il y a des chrétiens qui sont mystiques. Hein, des chrétiens qui sont mystiques. Sous prétexte de pratiquer le jeûne et la prière, il y en a qui ont commis des erreurs graves, des fautes graves, qui ont mis à mal la santé de leur enfant, par exemple. Vous voyez, ça c'est... Donc il faut qu'il y ait un équilibre. Maintenant, si c'est l'horizontal qui domine, aux dépens du vertical, alors on va être une association simplement. On va simplement être une association qui se met d'accord sur un projet commun, mais il n'y aura plus la dimension divine, surnaturelle. La volonté de Dieu, c'est l'équilibre entre les deux. L'Église doit avoir un objectif commun, un but commun. Elle doit avoir un programme. L'Église doit avoir un programme. L'Église doit initier des entreprises auprès des enfants, des jeunes, des personnes âgées, des malades. Il doit y avoir dans le programme d'une église en bonne santé toutes sortes d'initiatives tournées horizontalement pour communiquer l'amour de Dieu, la parole de Dieu, la connaissance de l'Évangile. C'est important cela, mais sans que cela ne prenne le pas sur le vertical. C'est pourquoi je rappelais dimanche que tout ce que l'Église fait et vit doit baigner dans la prière. Amen. Nous avons besoin de la dimension divine qui va venir confirmer les multiples services que nous remplissons, que le Seigneur bien nous donne de vivre ces choses. Alléluia. Tu es une pierre vivante que Dieu veut solide, belle et bien équilibrée, conforme à sa sagesse et à sa volonté. Que le Seigneur soit béni et qu'il continue à nous travailler, hein. Qu'il continue à me travailler. J'en ai tellement besoin. Et ensemble, eh bien, nous irons ainsi de progrès en progrès, formant cet édifice spirituel à la gloire du Seigneur. Et voilà, et chaque dimanche matin, chaque mardi soir, que Dieu descende. Amen.